Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez un nouvel épisode d'À Poil dédié à Cyril Lignac.
Je fais la cuisine et la pâtisserie pour mes clients. Je ne fais pas la cuisine et la pâtisserie pour moi, dans le sens représentation. Je ne fais pas la cuisine en essayant de faire le meilleur plat qui soit le plus beau, le plus génie. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être proche des gens. Et ça a toujours été mon ADN. À la télé, dans les pâtisseries, dans les restaurants, même dans mon restaurant gastronomique à l'époque, ce qui a toujours été important, c'est d'être proche des gens, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont envie de manger, d'écouter le marché et de travailler dans cet ordre-là.
Pourquoi Cyril ? Parce qu'au-delà du personnage médiatique, c'est un chef d'entreprise hors pair qui multiplie les projets avec une grande liberté. Il aurait pu se contenter de jouer le rôle qu'on avait écrit pour lui, mais il a osé s'aventurer avec brio sur des territoires osés, la pâtisserie, la chocolaterie et même la world food. Dans cet épisode, Cyril parle des débuts de la cuisine à la télé, de sensations, des femmes en cuisine et de partage. Pour ne manquer aucune actualité de la gastronomie, n'hésitez pas à me suivre sur le compte Instagram d'À Poil Podcast ou Julie Gerbet. Bonne écoute! Bonjour Cyril, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, je crois que la dernière fois on avait déjeuné au Chardenoux-des-Prés à l'époque et tu avais ouvert ta première pâtisserie, donc ça remonte à longtemps. Depuis t'as développé à fond, donc t'as transformé le Chardenoux-des-Prés en Auprès, t'as ouvert plusieurs pâtisseries, des chocolateries, un bar à sushi. Tu ne te voyais pas chef d'un seul restaurant ?
Je me suis jamais posé cette question-là en fait, je pense que l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Donc, je me fixe pas de point d'arrivée, mais ce que j'aime, c'est le voyage. Le voyage dans la cuisine, le voyage dans l'entreprise, le voyage dans la découverte, le voyage dans tout ce que je fais. Donc, ça s'est fait, j'ai envie de dire, naturellement. Quand j'ai ouvert le 15e, après le 15e, c'était la mode où tous les chefs avaient des bistrots parisiens pour faire une cuisine alternative à la cuisine gastronomique. Et donc, j'ai acheté le Chardenoux. Et une fois que j'ai eu acheté le Chardenoux, ça marchait super bien. Je me suis dit, je vais faire le même Chardenoux, rive gauche. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le Chardenoux-des-Prés. Et puis ensuite, je voulais séparer les deux Chardenoux, donc je l'ai appelé Auprès. Et ensuite, le Bar des Prés, qui est le restaurant japonais cru de sushi. Et donc, le principe, c'est de toujours voyager entre des cuisines, et c'est ce qui me plaît, en fait.
Et en fait, à chaque... moi, je trouve ce qui est très réussi, c'est qu'à chaque établissement, il y a vraiment un parti pris assez fort. Et même dans tes pâtisseries, dans tes chocolateries, on sent la touche Cyril Lignac. C'est pas juste une pâtisserie lambda qui pourrait être signée par n'importe qui. C'est un positionnement stratégique très fort. Vous y réfléchissez beaucoup.
Alors déjà, la première chose... C'est très important pour moi d'avoir des restaurants identitaires et d'offrir à mes clients des lieux différents, avec des designs différents et des cuisines différentes, pour avoir un panel un peu à la carte. C'est-à-dire que si on veut manger du poisson, on va au Chardenoux. Si on veut manger plus de la viande, on va au Pré. Si on veut manger cru et japonais, on va au Bar des Prés. Donc ça, déjà, c'est important pour moi de pas dupliquer. Parce que c'est ennuyeux, en fait. Si je dois prendre un restaurant et en faire quatre les mêmes dans Paris, on devient plus dans l'axe du business plutôt que du plaisir de créer et de donner une partition différente à chaque restaurant. Moi, ce qui me fascine, c'est la création. La création artistique, la recherche d'un designer, le travail du restaurant, du sol au plafond, de la lumière à la musique, aux assiettes, à la cuisine et à l'art qu'on met à l'intérieur d'un restaurant. Donc ça, c'est important. Et après, pour les pâtisseries, c'est pareil. Je pense que c'est pour moi très important d'avoir des pâtisseries signées. On vient acheter quelque chose chez Lignac, on doit avoir quelque chose de différent et d'identitaire.
Pareil dans la chocolaterie, enfin ces oursons par exemple qui rappellent les douceurs de l'enfance, enfin même les plaquettes de chocolat, c'est on trouve pas ça ailleurs et t'as réussi à trouver une vraie marque de fabrique un peu sur le côté gourmand du chocolat qui existait assez peu en fait, qui était délaissé par les autres pâtissiers et chocolatiers.
Je fais la cuisine et la pâtisserie pour mes clients. Je fais pas la cuisine et la pâtisserie pour moi, dans le sens représentation. Je fais pas la cuisine en essayant de faire le meilleur plat qui soit le plus beau, le plus génie. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être proche des gens. Et ça a toujours été mon ADN. À la télé, dans les pâtisseries, dans les restaurants, même dans mon restaurant gastronomique à l'époque. Ce qui a toujours été important, c'est d'être proche des gens, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont envie de manger, d'écouter le marché et de travailler dans cet ordre-là. Donc, quand j'étais gamin, j'aimais les oursons comme beaucoup de gens. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais le refaire. Et à chaque fois, la vie me donne raison. Donc, je continue à faire ce que je ressens et ce qui fait plaisir aux clients, en fait.
Mais proche des gens et en même temps proche de toi-même.
Oui, oui, non, mais bien sûr que ça me ressemble. Quand je fais un éclair au chocolat, je fais un éclair au chocolat qui a goût de chocolat, pas trop amer, avec une pointe de lait à l'intérieur, pour qu'il soit aimé des enfants comme des adultes. Si j'étais dans un esprit purement chef, d'un travail de chef, je ferais un éclair au chocolat noir. Sauf que moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de toucher les gens. Et donc, qu'est-ce qui est bon quand on est enfant? C'est une pointe de lait parce que ça apporte de la délicatesse. Et de la même manière que je le fais aussi dans la cuisine, pareil.
Tu disais que t'aimais plutôt concevoir tes restaurants. Tu passes beaucoup de temps dessus, à y réfléchir avant?
Alors, je passe beaucoup de temps à réfléchir à quel va être le prochain restaurant. Et après, une fois que j'ai donné l'ADN en disant, bon, mais voilà, c'est un restaurant... japonais, comme j'ai fait le dernier, le Bar des Prés. Alors, à ce moment-là, je vais chercher mes architectes, je leur montre le lieu, je sais ce que je veux, et je donne la trame de travail du restaurant. Et ensuite, eux font le design. Ça, moi, j'ai pas la... Ça, je sais pas faire, et j'ai aucunement la prétention de ça. Mais quand j'ai refait le Char de Nous, c'est un restaurant que j'ai depuis 10 ans, qui est très beau, très ancré dans le parisianisme du 11e, restaurant des Faubourgs. Et donc, c'était important pour moi d'aller chercher un architecte qui était capable de mettre en lumière ça. Donc, je suis allé chercher Martin Broninski à Londres, qui avait fait Annabelle, c'est tous ces restaurants de Londres, très classés, très chargés. Et donc, il a redonné les lettres de noblesse au Char de Nous. Et surtout, il y a apporté de la fraîcheur, de la nouveauté, du peps avec ses couleurs vertes, tout en gardant l'ADN de ce bistrot parisien des Faubourgs.
Et vous êtes combien aujourd'hui dans le groupe Lignac?
On est à peu près 150 à travailler.
T'imaginais ça quand t'as commencé?
Non, à vrai dire non, mais ça se fait comme ça. J'ai envie de dire, ça fait beaucoup sur le papier. Mais en fait, il faut savoir que le groupe est partagé en trois parties. La première, la restauration. La deuxième, les pâtisseries et chocolateries. Et la troisième, le pôle production télévision avec tous mes collaborateurs de la télé. Donc ça fait en somme un grand groupe. Mais si on le décortique par pôle... Ça diminue quand même un peu la masse.
Et le plus gros, c'est la restauration?
Je pense que le plus gros, c'est la pâtisserie. Parce qu'on a 40 pâtissiers, qu'il y a 5 boutiques, donc il y a beaucoup de vendeuses, de boulangers, donc on doit être déjà très nombreux à la pâtisserie. Après, je m'amuse pas à compter tous les matins.
Il est bien loin le temps, en tout cas, où tu as commencé la cuisine. C'était un choix personnel quand tu étais enfant?
Non, c'était pas un choix personnel. C'est plutôt que... Quand j'étais plus jeune, je savais pas ce que j'allais devenir. J'aimais pas l'école. Ça se passait pas très bien. Et donc, du coup, il a fallu que je choisisse un métier parce que je voulais m'émanciper. Et mes parents m'avaient toujours dit, tu partiras de la maison quand tu auras un métier. Et comme j'ai grandi dans l'Aveyron, c'était très important ces valeurs familiales et de laisser partir son enfant quand il a un métier en poche et qui peut vivre et subvenir à ses besoins. Et du coup, je voulais vraiment m'émanciper. Et quand mes parents faisaient des dîners à la maison, je voyais toujours un œil bienveillant des convives, disant toujours « mais comment tu l'as fait ?»« Comment c'est ? Qu'est-ce que c'est bon ? Tu nous régales ?» Et ma mère était infirmière, mon père menuisier, donc rien à voir avec la choucroute, plutôt la ligot. Et du coup, un jour, je me suis dit, mais si j'apprends à faire la cuisine, les gens, ils porteront un regard bienveillant sur moi, puis ils vont m'aimer. Ça va, ils vont me considérer, je vais leur donner du plaisir. Et du coup, je suis un jour arrivé à la maison, j'ai dit à ma mère, ça y est, je sais ce que je veux faire, je serai cuisinier. Et elle s'est mise à pleurer, sachant au plus profond d'elle que ce serait vraiment mon métier. Donc c'est assez marrant, c'est une belle histoire.
T'avais quel âge?
Oh, j'avais 16 ans.
16 ans?
Ouais.
C'est là que t'as commencé ta formation?
C'est là que j'ai commencé le lycée hôtelier, un CAP, un BEP de cuisinier.
Et ça t'a tout de suite plu dans les fêtes?
Disons que au début ça m'a beaucoup plu parce que déjà c'était une autre version de l'école. J'étais pas assis sur une chaise toute la journée à écouter Napoléon, la géographie, E égale M6 et tout le reste. Donc déjà ça me passionnait un peu plus parce que j'apprenais les poissons, la viande, à faire une quiche lorraine, à faire une gaze. Donc j'avais l'impression de pas perdre mon temps. Et puis j'apprenais des choses, c'était manuel, c'était concret. J'ai toujours été dans le concret, je suis pas un intellectuel, je suis plutôt contemplatif et concret. Donc du coup, c'était formidable pour moi.
Est-ce que c'était aussi une façon de t'émanciper et de, voilà, petit à petit, t'es venu à la capitale, tout ça, donc tu vois, que
oui,
ça t'a
oui.
permis aussi de faire ton chemin?
Alors déjà, après l'école, c'était important déjà d'avoir un métier. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans un restaurant gastronomique dans l'Aveyron, chez les sœurs Fache-Galtier, qui sont étoilées, toujours, et qui m'ont appris finalement les codes de la grande cuisine. La rigueur, la remise en question, l'humilité, l'amour du travail bien fait, les produits, la famille, et qui m'ont fait rejaillir en moi cette passion. Et du coup, ce qui était formidable, c'est que du jour au lendemain, ça m'a complètement transformé. Je sortais tous les soirs avec mes copains, le week-end, m'amuser, voilà, du jour au lendemain. Le dimanche, c'était le jour sacré pour moi parce que c'était le plus gros service et que c'était le match du samedi soir pour moi. Donc, je suis devenu vraiment, vraiment passionné. Et puis ensuite, j'avais envie mon métier en poche, ayant mes techniques, sachant cuisiner. Je voulais découvrir le monde. Et donc, l'étape suivante, quand on est Aveyronnais, c'est d'aller à Paris, parce que pour nous, c'est quelque chose d'important dans notre région. Tous les brasseurs, les cafetiers, les cuisiniers, beaucoup de gens de chez nous sont montés à Paris. Donc, il y a une espèce de sens valeureux quand t'es Aveyronnais de dire je pars à Paris, parce que c'est vraiment quitter sa campagne pour aller à la ville dans quelque chose de dur. Avec une perte de repères, hein, et où tu connais personne. Donc c'est voilà comment je suis arrivé à Paris.
C'est ce que t'as fait, t'as postulé à l'Arpège?
J'ai postulé à l'Arpège, au Crillon, et chez Pierre Gagnère, et j'ai choisi l'Arpège.
C'était comment?
C'était formidable. Non, mais l'arrivée à Paris était assez folle, parce que d'un coup t'arrives dans une ville avec tous ces murs, cette énergie, le métro, toute une vie que nous on n'a pas dans l'Aveyron.
Et t'avais quoi, 20 ans?
Et j'avais 22 ans, je sortais de l'armée.
Ouais.
Donc du coup c'est un truc qui est fort, violent à la fois et tellement enrichissant. J'avais cette image de me dire j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner.
Et t'avais envie de
faire... la vie m'appartient, quoi.
T'avais envie de faire quoi à l'époque? Enfin, t'imaginais ta carrière, t'allais de restaurant en restaurant, au gré du vent, ou t'avais une idée précise?
Non, j'ai travaillé plus d'un an à l'Arpège. Ensuite, je suis parti travailler chez les frères Pourcel qui venaient d'arriver à Paris,
où j'ai passé
2 ans à la Maison Blanche. Ensuite, j'ai fait un passage chez Pierre Hermé. Ensuite, je suis parti travailler à la Grande Cascade. Et ensuite, on m'a proposé, via les Pourcel qui conseillaient David et Cathy Guetta, et donc l'investisseur qui avait acheté ce restaurant avenue Georges V. Les Pourcel m'avaient placé comme sous-chef et chef pâtissier, puisque je savais faire les deux.
Oui, t'as le double CAP.
Exactement. Et chaque fois que j'apprenais le métier, je faisais un peu de pâtisserie, un peu de cuisine. C'était important pour moi de passer partout comme ça. J'avais double culture. Et du coup, j'ai atterri chez les Guetta à la suite. Et puis ensuite, je suis passé chef. Je suis resté 2 ans. Et ensuite, on m'a proposé de démarrer une émission de cuisine à la télé qui s'appelait Oui Chef. Comme Jamie Oliver à Londres, où tu donnais de la chance à des jeunes, comme on m'a donné ma chance à moi. Et tout ça dans le but d'ouvrir un restaurant, qui était donc le 15e.
Le 15e, ouais. Ouais. C'était en 2005?
C'était en 2005, 15 ans déjà.
Donc tu imaginais, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as commencé? T'étais pas connu? Tu faisais,
ouais.
T'étais chef. À l'époque, c'était pas très moins glamour qu'aujourd'hui, quand même.
la force et la puissance de la télé et des médias, c'est forcément de rendre sexy quelque chose. Donc la cuisine était vraiment connue, reconnue par le public, mais là c'était une nouvelle manière dans les années 2000 de présenter une émission de cuisine à la télé. C'était pas vraiment une émission de recettes, et c'était plutôt ouvrir les portes d'un restaurant, rentrer dans l'antre d'un restaurant, de montrer comment on fabrique, quels sont les doutes, les peines, les joies de ce métier, où finalement tous les Français poussent la porte d'un restaurant, pour certains plusieurs fois dans la semaine, pour d'autres une fois dans le mois, plusieurs fois dans le mois. Donc ça a vachement intéressé les gens. Et donc c'était la naissance des nouvelles émissions de cuisine à la télé, et aussi la gloire de notre métier, parce ouais. que finalement ça a repeuplé les lycées hôteliers, ça a rendu sexy notre métier. On est passé de la voix de garage, comme moi je l'ai vécu quand j'arrivais à la chambre des métiers, à une voix un peu plus royale. Et puis les livres de cuisine du rayon corvée au rayon loisir, donc ça a repumpé un peu notre industrie, et c'est formidable.
Tu t'attendais à un tel succès à cette émission télé?
Non, parce qu'on n'est pas préparé à ça. Et puis, c'était le néant pour moi. Je ne savais pas du tout où on allait, ni ce que ça allait devenir.
Et tu t'es tout de suite senti à l'aise à la télé ?
Non, je ne me suis pas du tout senti à l'aise. Au début, ça a été très compliqué pour moi, parce que, bien sûr, aujourd'hui, je me suis soigné. Mais je suis vraiment timide. Je suis plutôt un garçon réservé, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs. Mais la vie a plus d'imagination que nous. Mais de nature, je suis plutôt timide. Alors en France, forcément, là maintenant, je suis dans mon jardin. Mais quand je suis à l'étranger ou que je suis dans un univers où on ne me connaît pas, je m'efface beaucoup et je suis plutôt vraiment timide et réservé. Ouais.
Je crois que c'était assez difficile. On avait eu cette discussion au début pour le côté chef. C'était très mal perçu par rapport à tes confrères de faire de la télé. C'était un peu dénigré.
C'était quelque chose de nouveau, et aujourd'hui, en France, on n'aime pas trop le changement. Donc c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose qui a bousculé les codes de la cuisine, de la gastronomie. Et donc sur le départ, c'est sûr qu'il y a plein de personnes qui se sont posées plein de questions aussi. Sauf que maintenant, moi je veux regarder de l'avant et pas regarder en arrière, parce que j'en ai marre de ressasser toujours ces mêmes choses. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de le prendre d'un côté positif et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et de dire qu'aujourd'hui, ça a changé les codes de notre métier en bien. Les chefs sont plus médiatiques, on porte un intérêt fort sur notre profession, ça crée des vocations chez les jeunes. Même si les jeunes n'en font pas leur métier, ça crée des loisirs à la maison. Donc finalement, on est passé sur un cercle très vertueux, et je trouve ça formidable en fait. Voilà.
Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette notoriété médiatique ? Ça t'a permis d'avoir plus de liberté dans ta carrière ?
Au début, ça a été compliqué, plus que maintenant. Mais déjà, il a fallu absorber cette notoriété, apprendre à vivre avec, parce que c'est un changement radical de vie quand même. D'un coup, on peut plus être là sans qu'on t'ait vu ou qu'on ait dit. Donc ça change quand même littéralement la vie d'un garçon de 25 ans, parce qu'il faut remettre ça dans le contexte de 25 ans. Mais 15 ans plus tard, c'est une grande liberté parce que j'écris ma propre histoire, parce que le public est là pour me soutenir, et je suis surtout très heureux.
Est-ce que cette notoriété, à une époque où c'était, ce qu'on disait, moins bien vu de faire de la télé, a fait que tu as dû faire tes preuves côté cuisine deux fois plus que les autres ?
Oui, parce que au bout d'un moment, quand on sort du cursus vraiment gastronomique comme je l'étais, et que d'un coup on se retrouve sur le devant de la scène, j'ai un ADN de cuisinier, j'ai un ADN de chef, j'ai un ADN de personne qui aime la cuisine, qui aime les produits, qui aime la transmission, et donc ces valeurs-là qui sont inhérentes à notre métier. Donc forcément, j'avais besoin de montrer que j'avais ma place au milieu de tous les chefs, et que c'était important pour moi de montrer que c'était pas qu'une émission de télé, et qu'il y avait du contenu à l'intérieur de tout ça.
Que t'étais
donc forcément,
pas...
parce que j'avais 25 ans.
Que t'étais pas un acteur,
oui.
Que t'étais un vrai cuisinier aussi.
Oui, oui. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, ça m'apporte une grande liberté, et je fais comme je l'entends et comme je le sens, et ça marche plutôt pas mal.
15 ans après, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans l'aventure du 15e ?
Non. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Maintenant, je me remets toujours dans ce contexte parce que là, comme j'ai fermé le 15e, ça m'a mis une grande nostalgie. Je suis reparti dans mes anciennes pensées et dans tout ce que j'avais fait. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Et je referais la même chose parce qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans, mais que j'en avais 25. Et qu'à 25 ans, t'es un petit bonhomme. T'as pas pris des coups, t'as pas été obligé de te battre pour réussir. Donc, j'aurais la même naïveté. Donc, je referais les choses de la même manière.
Est-ce que tu cuisines encore aujourd'hui?
Tous les week-ends.
Pour tes amis?
Non, mais oui. Donc, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que je cuisine encore? Bien sûr que je cuisine encore. Tous les jours, non. Est-ce que je prends du plaisir à cuisiner? Oui. Est-ce que je fais de la pâtisserie? Oui. Maintenant, mon métier, il est de créer. Mon métier, il est d'accompagner mes chefs. Mon métier, il est de sélectionner les bons produits. Mon métier, il est aussi d'être un chef d'entreprise dans l'univers de la cuisine. J'aime à dire, comme j'avais eu des discussions à chaque fois, quand on va chez Chanel et qu'on achète un tailleur ou un sac à main, c'est pas Karl Lagerfeld qui l'a cousu de ses mains. Paix à son âme. Mais par contre, c'est lui qui l'a pensé, qui l'a dessiné, qui l'a réfléchi pour que... Ce manteau soit utile, il soit joli en toutes circonstances, il soit confortable. Ben dans la cuisine, c'est la même chose. Quand je fais, là, on a sorti une tarte au chocolat avec des fruits secs caramélisés pour les restaurants. J'ai mangé 15 fois la tarte. J'ai pensé jusqu'au moindre détail de dire la tarte, il faut qu'on la fasse, il faut qu'on coule la ganache à l'intérieur, il faut que la ganache elle ne passe pas au frigo pour qu'elle soit tendre. Il faut qu'on centre le caramel à l'intérieur qui soit croustillant, que la pâte soit pas trop épaisse. On a fait 10 essais de pâte. Mais par contre, la tarte que vous allez manger à midi, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc je veux pas me cacher derrière ça. Moi, je pense qu'il faut être honnête et toujours dire les choses. Bien entendu que c'est pas moi qui ai fait la tarte, ni le croissant que l'on va manger ce matin. Par contre, je l'ai travaillé, pensé, réfléchi pour qu'il soit le meilleur. Et après, ben, j'ai mes proches collaborateurs qui le font. Et je trouve ça génial parce que finalement, c'est tout le monde qui apporte la pierre à l'édifice de ce croissant, de cette tarte au chocolat. Et c'est ça ma plus grande fierté. Et je pense que dans la vie d'un cuisinier, il y a plusieurs étapes. Au début, on épluche les légumes. Ben oui. Ensuite, on fait ce que j'appelle le repas du personnel, des collaborateurs. Je suis passé par toutes ces étapes. Ou quand j'étais dans l'Aveyron, quand tu démarres à être cuisinier, avant de faire à cuisiner pour les clients, ben déjà, tu apprends à faire à manger aux collaborateurs. Et c'est inhérent à tous les métiers. Il faut apprendre à faire un rôti de veau au pruneau, comme je faisais à chaque fois, avec un bon jus et une bonne purée pour régaler les collaborateurs. Et puis ensuite, petit à petit, on monte les échelons. Et l'échelon ultime, c'est la création. Et c'est ce qui m'anime. C'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire comme bûche de Noël, comment on va mettre les feuilles de chocolat placées dans le gâteau au chocolat, pourquoi les gens vont l'aimer. C'est ça qui m'excite, en fait.
Est-ce que tu as la création facile?
J'ai la création facile, non, parce que je suis comme tout le monde, on galère. Mais comme ça me passionne, je trouve toujours la solution.
T'écris, tu dessines?
Alors moi, je dessine pas.
Tu prends des notes?
Je prends des notes, mais je travaille à la sensation. À mon palais, à mon œil. Donc, je dessine pas. Je sais ce que je veux. Je sais pas toujours le faire, mais je sais ce que je veux.
Tu sais guider les collaborateurs, voilà. En tout cas.
Je sais ce que je veux. Je sais pas toujours le faire. Mais par contre, j'y arrive.
Et quel est le plat dont tu es le plus fier?
J'en ai pas un, parce que ce serait réducteur, mais plein de choses. L'équinoxe, la galette de tourteau, le lobster roll,
Commence par un gâteau.
Oui, parce que je suis gourmand et de nature sucrée. J'aime ça, c'est plus fort que moi. Mais je peux pas choisir entre la cuisine et la pâtisserie. Maintenant, je vais toujours sur une note de sucré, c'est plus fort que moi.
Qu'est-ce qui guide ta cuisine?
J'allais dire l'émotion, parce que je trouve que la cuisine, ça doit pas être compliqué, intellectuel. Ça doit être bon et ça doit réchauffer l'âme. C'est un truc pour moi qui est très simple. Je mange, c'est bon, quoi. Je dois pas commencer à penser qu'est-ce qu'on a voulu mettre. Ça doit me régaler. Ça peut marcher que comme ça pour moi.
J'ai un souvenir du 15e où j'avais mangé, j'avais déjeuné. Et justement, c'était ça, je trouvais. On était vraiment dans... la gourmandise hyper bien faite et tout ça, mais c'était, on prenait plaisir à manger.
C'est ce qui dicte ma cuisine, c'est la gourmandise. En même temps que tu parlais, je pensais à la tarte aux champignons qu'on faisait au 15e, qui était vraiment le summum de la gourmandise, parce que c'est une tarte paysanne de chez moi dans l'Aveyron, de la pâte feuilletée, une duxelle de champignons, des champignons de Paris, de Saint-Ouen-l'Aumône, un bon jus de volaille. Il n'y a rien de plus simple en somme, et pourtant c'est tellement bon et gracieux. Donc c'est ça pour moi la cuisine.
J'ai une tradition dans ce podcast, je fais une interview dans l'interview.
Allez.
Donc ton âge?
41 ans.
Ton signe astrologique?
Scorpion.
Ton plat signature?
Oh, je dirais la galette de tourteau et d'avocat.
Ton plat préféré?
L'aligot, avec de la saucisse.
Le chef que tu admires le plus?
Alain Passard.
Ton ingrédient préféré?
Le curry.
Ton ingrédient détesté?
L'ingrédient ou produit, on pourrait dire, détesté le moins fort, mais que j'ai du mal à manger, c'est les huîtres. C'est... Yeah. Parce que je pense que dans l'Aveyron, c'est pas je pense d'ailleurs, c'est que nous, on n'a jamais mangé. Dans l'Aveyron, les huîtres, c'était pas le repas de fête. Hein. Donc, c'était plutôt le foie gras. Donc, du coup, voilà. Mais j'essaye de me soigner. Hein. J'en mange de temps en temps pour tenter de l'apprécier, mais j'avoue que j'ai quand même un peu de mal.
Ton ustensile fétiche?
J'allais dire mon couteau, mais j'allais dire la microplane.
Ton dernier meilleur repas?
Oh, dimanche soir pour l'anniversaire de Jean-François Piège.
Où ça?
Au Clovergill. avec tous les potes, côte de bœuf, cèpe, frites, salade, le bonheur. Quoi.
Quel est le resto que tu aurais aimé ouvrir?
Que j'aurais aimé ouvrir? Mmh. Ah ben ça, je sais pas parce que j'ai pas fini. Hein. Donc, je te dirais un restaurant marocain. Mais bon, j'ai pas fini ma carrière, pourquoi pas? Non, parce que j'adore la cuisine marocaine. Je trouve que déjà j'aime la cuisine marocaine parce que c'est une cuisine de femmes et de maison. Et j'ai appris la cuisine avec les femmes et donc j'ai cette sensibilité là. Et donc et c'est une cuisine que je sais pas faire. Et pourtant Dieu sait que j'ai travaillé au Maroc pendant 4 ans. Je me suis occupé d'un restaurant, donc j'ai quand même eu la chance de travailler avec des femmes marocaines. Mais il y a un truc, un supplément d'âme que on n'arrive pas à avoir nous les hommes.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
Que la cuisine est bonne. J'ai du mal à répondre à cette question parce que je suis né dans l'Aveyron et on n'est pas de nature à se glorifier, à se gargariser des compliments. On est plutôt de nature, nous, dans l'Aveyron, à se remettre en question, à travailler dur. Donc, ça me fait plaisir quand on me fait des compliments. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois que les plats sortent correctement, que la cuisine est bonne, que les clients soient contents. C'est un plaisir personnel.
Et la pire critique?
Ah, qu'on n'a pas aimé, ou des critiques acerbes de journalistes au début de ma carrière, quand je trouvais ça pas justifié et que je trouvais que c'était plutôt tapé sur ma personne que sur la cuisine en elle-même. C'était ça qui m'a... Je pense que ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière et qui m'a fait beaucoup de mal, c'est au début pareil, où des journalistes m'ont vraiment cogné. Parce que je le prenais comme tel. Quand t'as 25 ans, que t'arrives, que t'essaies de t'en sortir, et que tu te fais allumer comme ça. Peut-être à juste titre, j'en sais rien, mais parfois ça a été violent. Donc voilà. Mais bon, comme il faut toujours regarder de l'avant, ça permet aussi de se faire le cuir et d'avancer, quoi.
Bon, l'aller-retour est terminé. On va. Tu parlais des femmes que t'as appris à cuisiner avec des femmes et. T'as encore beaucoup de femmes dans ton entourage professionnel. Laurence, qui est ton bras droit. Aude, qui est ton autre bras, qui est ton bras gauche en cuisine. Vanessa, qui est ici à la communication. Enfin, c'est un vrai choix.
Ah oui, c'est un vrai choix.
T'aimes travailler avec des femmes?
Ben oui. j'aime travailler avec des femmes. J'aime l'énergie qu'elles dégagent. J'aime la sensibilité qu'elles ont, j'aime la manière dont elles me protègent. Une femme, elle est très protectrice en fait. Et donc du coup, c'est vrai que toutes les filles au bureau ou en cuisine sont vraiment là pour protéger un peu le temple. Donc c'est pour moi un plaisir. Et puis on a des discussions, on peut partager, on n'a pas la même vision, donc ça nourrit le débat. Et puis, si je fais de la psychologie de comptoir, c'est vrai que j'avais un rapport tellement fort avec ma mère que je pense que toute ma vie sera dictée comme ça par les femmes parce que je voue un culte à la femme. Donc, j'aime à travailler avec elle et on se comprend. Je pense que y a des hommes qui arrivent pas à travailler avec des femmes, il y a des hommes qui sont différents, leur rapport, mais moi j'ai un rapport fort avec les femmes. Donc c'est vrai que je m'entoure de femmes, après j'ai des hommes aussi autour de moi, et ce qui me plaît aussi là-dedans, dans cette époque aussi, c'est la mixité. C'est aussi, je suis pas dans la démonstration, mais c'est aussi quand on me pose souvent ces questions, c'est aussi de montrer que les femmes ont leur place dans des hautes places dans les sociétés, et je trouve que ça c'est vachement important. Parce que quand je vois le machisme et le sexisme qu'il y a dans notre société, ben j'ai aussi envie de dire, oh les mecs, ouvrez les yeux parce que vous vous trompez, quoi.
Ouais, un autre modèle est possible.
Et mon modèle fonctionne tellement bien que voilà. Mais je pense que ça doit venir du dirigeant, ça doit venir de la personne. Et moi, je l'ai dans mon ADN depuis ma mère. Donc voilà.
Quel genre de chef es-tu?
Oh, un chef tyrannique qui crie, qui est méchant. Non, mais un chef exigeant, un chef à l'écoute, parce que je pense que c'est important de partager la création, les directions d'entreprise, on n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, on en parle. Et ça, c'est très important pour moi, l'échange et la discussion. Et puis ensuite... J'essaie d'être avant-gardiste, j'essaie de me poser des questions pour être toujours en avance sur mon temps.
Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois?
Waouh, ça c'est une bonne question. Quand j'ai eu une équipe vraiment à mes côtés.
Au 15e?
Je pense que tu te sens chef avant, à la suite.
Avant.
Je pense que tu te sens chef quand t'as vraiment une équipe avec toi, qui se bat pour toi, qui est là à tes côtés, qui transpire au fourneau pour toi, qui se donne du mal pour toi. Je pense que c'est ça.
Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus chef, restaurateur, chef d'entreprise, cuisinier?
Un peu tout, mon général. c'est un peu tout ça, en fait. C'est un peu tout ça.
Tout à l'heure, on parlait de faire ses preuves par rapport à la télé, etc. Est-ce que le fait d'avoir eu une étoile Michelin, d'avoir eu un prix Fooding, ça a appuyé ta confiance et entériné tes valeurs de cuisinier?
Alors, bien sûr que ça a été une reconnaissance. Et c'était là où je voulais arriver parce que, au vu de tout ce qu'on a dit au départ, il fallait prouver. Donc c'était important pour moi de faire mes preuves. Mais avant tout, ces prix-là, c'est le travail de toute une équipe. Et ce qui était important pour moi aussi, c'était qu'on les gagnait tous ensemble. Donc c'est important pour les équipes parce que c'est tout le monde qui se bat pour ça.
Pas seulement pour toi.
Non, pas seulement pour moi, mais... C'était tout un travail d'une équipe.
Tu sors dans quelques jours un nouveau livre de cuisine. On va en parler. Hein. Tu travailles sur une nouvelle émission télé aussi avec Jean-François Piège. Tu t'arrêtes jamais.
Non, mais... Alors, le livre, ça faisait 5 ans que je n'avais pas écrit un livre de cuisine. J'ai eu un peu une overdose des livres de cuisine parce que quand j'ai démarré, forcément...
Mais t'en as fait beaucoup au début.
J'en ai fait beaucoup. T'es pris dans ce rouleau compresseur.
Moi, je fais des recettes encore des premiers livres.
Donc, je regrette pas, mais c'est vrai que j'étais pris dans tout ce schéma de faire des livres, des livres et des livres et des livres et des livres. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, mais stop, on arrête. Et puis, avec l'âge aidant, tu te dis, ben maintenant, j'ai envie de moins en faire, mais en tout cas, d'écrire des choses qui sont vraiment réfléchis et posés et qui sont vraiment issus de mes restaurants et de la cuisine que j'aime. Le fait d'écrire un livre de cuisine, c'est de faire une photo sur une époque de ta vie de cuisinier. Donc, j'avais fait il y a un an et demi le livre sur la pâtisserie qui scindait un peu toute notre pâtisserie avec Benoît. Et là, c'est une manière de scinder aussi les recettes de nos restaurants que je fais avec Aude depuis quelque temps déjà.
Et donc ça aborde le enfin, ça aborde ta cuisine par le prisme des saisons.
Ça, alors, c'était intéressant de faire un livre autour des saisons. Alors, on fait tous des livres autour des saisons. Mais là, ce qui me plaît, c'est de faire vraiment un cahier de recettes, entrée, plat, dessert et cocktail, qui correspondent à une saison. Comme ça, on ouvre à la saison et on se dit, bon, ben voilà, on a ce panel-là que l'on peut faire. C'était une manière de réinterpréter un peu le livre de cuisine. Et puis, c'était surtout aussi des recettes qui me tiennent à cœur, des recettes que je fais dans les restaurants, issues de mes voyages et de ce que j'aime en ce moment.
Donc, il y a la galette de tourteau.
Donc, il y a la galette de tourteau, il y a la tarte au chocolat, il y a les profiteroles, il y a des coquillages qu'on fait au chardonnay cuit avec une sauce. Il y a le bar en croûte de sel, il y a les oursins.
Des recettes qu'on peut refaire à la maison.
Oui, des recettes qu'on peut refaire à la maison. Et des recettes aussi de cuisinier, parce que c'était important de faire un livre avec un ADN. Parce que bien sûr que je peux faire, j'en ai fait des tonnes, des livres de recettes faciles pour la maison. Sauf que là, au bout d'un moment, c'est intéressant aussi de faire un livre sur tes vraies recettes.
C'est la première fois ?
C'est la première fois, avec des vraies recettes de restaurant, ouais. C'est la première fois. Et du coup, de marquer un peu un temps, quoi, voilà.
Tu fais partie des chefs français les plus suivis sur les réseaux sociaux. Tu vas bientôt atteindre les 1 million d'abonnés. Je vais pas surveiller ce matin, mais je crois qu'on n'en est pas loin. Mmh. On peut suivre tes pérégrinations donc sur Instagram. Qui gère ton compte ?
Alors le compte Instagram, c'est moi.
C'est toi qui fais les photos. Exactement. Qui fais tout. Ouais. Y a personne.
Non, c'est moi qui fais les photos. C'est moi qui écris les commentaires. Parfois, on a des photos de photographes que l'on a pour les nouvelles collections de gâteaux, pour des photos qu'on peut avoir, que je peux reprendre et poster, hein, oui. Ça, la question n'est pas là. Mais c'est moi qui le gère comme un journal.
C'est très personnel.
C'est très personnel.
C'est ça qui plaît aussi.
Ben,
je pense.
C'est ce qui plaît aussi. Je pense que.
C'est accessible.
Aujourd'hui, avec Instagram, ce qui me plaît, ce qui plaît aussi aux gens et ce qui est la force d'Instagram, c'est de faire partager ta vie, tes passions, tes endroits, la culture, ce que tu vois à l'instant T. C'est ça la force d'Instagram. Et c'est ce que aime le public. Après, il y a une frontière entre le privé et le professionnel. Mais comme j'ai la chance d'être dans un univers de gastronomie, c'est tellement facile. Je vivrais dans un univers de tout autre chose. C'est plus difficile de montrer ce que tu aimes faire et ce qui est. Là, c'est vrai que c'est assez facile, parce que quand je suis dans le sud et que j'ai un copain qui me fait une bouillabaisse au feu de bois, ben c'est facile de faire une belle photo et de l'expliquer aux gens. Mais je trouve ça fascinant. J'ai eu la chance de prendre le train à temps, parce que à un moment où Instagram a démarré, c'était Vanessa et les filles du bureau qui s'en occupaient, et Laurence, qui un jour m'ont dit, grâce à elle, prends-le, amuse-toi avec, regardez-moi, j'en avais rien à faire, parce que je suis pas du tout dans l'ordinateur, je suis pas du tout là-dedans, je suis pas du tout, ça m'intéressait pas du tout. Et les filles m'y ont mis en me poussant un petit peu. Et c'est vrai que je me suis pris au jeu de raconter ta propre histoire, au jeu de raconter ce que tu es, comment tu le fais, ce que tu aimes, les choses qui te touchent. Eh ben, ça fait aujourd'hui, en effet, 1 million de personnes qui suivent. Et ce qui est bien, c'est aussi un journal de l'entreprise, un journal de mes envies, un journal des créations. Et je trouve ça fort parce que finalement, c'est aussi ta propre communication.
Et c'est un moyen de communication très direct avec la clientèle.
Oui, t'es direct. Là, on sort un nouveau gâteau, bim, je le mets demain. Tout le monde sait qu'il y a le Paris-Brest qui va revenir à la pâtisserie. Ou le gâteau Coco Passion qui va arriver la semaine prochaine. Donc voilà, c'est super, quoi.
Et c'est devenu hyper important pour les cuisiniers Instagram et les réseaux sociaux.
C'est une manière de communiquer. C'est aussi un livre ouvert sur ce que tu fais, ce que tu penses, ton éthique, de ce que tu mets dans tes produits, dans ta cuisine. C'est important.
Plus pour la cuisine que dans d'autres secteurs, tu penses ou...
Non, j'en sais rien. Moi, je suis là dans mon secteur de la cuisine parce que je parle de ce que je fais moi. Ouais. Mais je pense que ça marche dans la mode, ça marche... Ça marche, moi qui aime les voitures chez les constructeurs, qui aime les motos chez les motos, enfin voilà.
Chez les tatoueurs.
Ce que tu aimes, voilà, ceux qui aiment les tatouages. Oui, c'est une manière de se faire connaître. Et ce qui est bien, c'est worldwide, quoi. Moi, ça me permet de regarder des cuisiniers à Los Angeles, comme des cuisiniers à Tokyo, comme des cuisiniers en Chine. Je trouve que c'est une ouverture sur le monde incroyable. Après, aujourd'hui, tout le monde s'y est mis. Mais ça fait bien longtemps qu'on y est. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à 1 million aujourd'hui. Parce que toujours ce côté, essayer de capter l'avance. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Le monde va vite. Comment on s'intègre là-dedans? Et ouais.
Quels sont tes futurs projets?
Ça, je sais pas.
La réouverture du 15e?
La réouverture du 15e, au mois de février, mars. Voilà.
Tu peux pas en dire plus?
Non, mais je peux en dire plus. On va faire un restaurant italien. Joli, bien. Après, bon, il y a tous les nouveaux restaurants qui ouvrent aujourd'hui à Paris sont italiens. Donc, il n'y a rien de nouveau dans le concept du mot italien. Après, comment on va l'appréhender? Ça, c'est autre chose. Des restaurants japonais, il y en a plein Paris. Comment on a créé le bar des prés? Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, je peux dire qu'on va faire un restaurant italien.
Tu travailles dessus, là.
Je travaille dessus. Ouais. Comment je vais le faire? Moi, je le sais.
L'interview touche à sa fin et je voulais te demander une recette à refaire à la maison.
J'en ai plein. Là, j'ai envie de donner une recette de produits qui va arriver puisque les coquilles Saint-Jacques vont bientôt apparaître. Donc, j'ouvre les coquilles Saint-Jacques, j'enlève les bardes, je les mets à tremper dans de l'eau. Ensuite, je les mets dans la. Je fais revenir des oignons, je mets un peu de carottes, un peu de céleri, je déglace au vin blanc, je mets un petit peu de curry. Je rajoute mes bardes avec le jus que je fais fondre avec le jus. Donc ça me donne tout ce jus de mer. Ensuite, je crème, je filtre. Et là, j'ai une bonne sauce au curry. Ensuite, deux solutions. Soit les coquilles Saint-Jacques, je les laisse dans la coquille. Je mets une noisette de beurre, je les mets au four. Soit je les passe à la poêle avec des endives. J'ai plein de possibilités. Mais du coup, je les mets au four. Et puis, je les laisse le plus pur possible. Et je mets, au dernier moment, je nappe cette sauce au curry avec des pommes vertes dessus. Ça nous fait un petit curry de Saint-Jacques aux pommes vertes.
Merci Cyril.
Voilà.
Vous venez d'écouter le 8e épisode de la saison 3 avec Cyril Lignac. Vous pouvez goûter ce qu'il a dans la poêle, dans ses restaurants parisiens, au Pré, Bar des Prés et le Chardenou, mais aussi dans ses pâtisseries et sa chocolaterie. Toutes les adresses sont à retrouver sur le site cyrillignac.com. Vous pouvez aussi retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Cet épisode a été réalisé par Studio Ochenta, musique par Santiago Walsh. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.